des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, Jean Anouilh est né le 23 juin 1910 à Bordeaux, en Gironde. Il nous a quittés le 3 octobre 1987 à Lausanne, en Suisse. Cette année 2010 marque en effet le centenaire de la naissance du dramaturge. Canal Académie vous propose, en la circonstance, deux émissions consacrées à la vie et à l'œuvre de Jean Anouilh. Au cours de la première de ces deux émissions, nous avons le grand plaisir de recevoir Colombe Anouilh d'Harcourt, l'une des quatre filles du grand dramaturge. Colombe Anouilh d'Harcourt, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Bernard Beugnot. Bernard Beugnot, vous avez fait toute votre carrière au département d'études françaises de l'Université de Montréal. Vous êtes parisien, mais vous avez vécu une grande partie de votre vie au Québec.
Grande partie maintenant.
Voilà, vous avez même opté pour la double nationalité. Et vous avez donc dirigé pendant 10 ans cette université de Montréal en vous consacrant...
Non, le département.
Le département, d'accord. Le département d'études françaises, 17e, c'est bien cela. Voilà, vous êtes consacré essentiellement à cette littérature avant de vous orienter vers la modernité, c'est-à-dire vers la littérature québécoise avec Hubert Aquin, la poésie française avec Francis Ponge et puis le théâtre moderne avec Jean Anouilh dont nous parlons aujourd'hui. Donc, cela a donné lieu à toutes sortes de publications, des bibliographies, des éditions critiques, des études d'histoire, des idées de poétique, des articles programmatiques et conceptuels. Alors, vous participez à diverses commissions administratives, attribution de bourses, subventions de recherche, aide à l'édition, évaluation de programmes, données de conférences dans les universités. Alors, du monde entier, Tel Aviv, Vancouver, Anvers, Bruxelles, Florence, Naples, Ottawa, etc., etc. Et concernant le théâtre d'Anouilh, alors vous avez fait paraître en 1977 Jean Anouilh, critique de notre temps. C'était aux éditions Garnier.
Aux éditions Garnier, oui, dans la collection Les critiques de notre temps et.
Et c'est toujours publié ?
Non, c'est une collection qui a disparu. Apparemment, ce livre est épuisé.
Les deux volumes de la Bibliothèque de la Pléiade. Alors ça, un grand événement en 2007 autour de l'œuvre de Jean Anouilh, avec des archives jusqu'ici méconnues. Vous nous parlerez de cette aventure tout à l'heure. Vous avez participé alors dans la collection Gallimard à l'édition des pièces La Sauvage, c'est exact, non? Alors
oui, La Sauvage est publiée, Le Voyageur sans bagage, Beckett ou l'honneur de Dieu doit paraître au mois de mars, et il y a L'Invitation au château qui est également déposée mais qui paraîtra plus tard. On a inversé Beckett et L'Invitation, considérant que pour le centenaire, mieux valait publier Beckett d'abord, qui est quand même une pièce plus importante et plus substantielle.
Alors, à vos côtés, Christophe Mercier. Christophe Mercier, vous êtes un ancien de la rue d'Ulm. Vous êtes agrégé de lettres, critique littéraire dans certains journaux.
Au Figaro.
Christophe Mercier, vous êtes par ailleurs l'auteur de deux romans, Les singes hurleurs de l'autre rive et La cantatrice. D'autre part, vous avez fait paraître Pour saluer Jean Anouilh, c'était en 1998, chez Christian Bartilla. Alors, expliquez-nous pourquoi.
Je suis grand lecteur d'Anouilh depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 10 ou 12 ans, et que ça m'a amusé d'écrire. Je trouve qu'il est un petit peu... Je ne l'ai jamais rencontré. Et je trouvais qu'il était un petit peu méconnu, et surtout mal connu. Enfin, connu pour des pièces qui ne sont pas forcément des pièces les plus importantes, et que les pièces les plus connues de lui, qui ne me semblent pas les plus caractéristiques, encore une fois, ni les plus importantes, avaient tendance un petit peu à être un peu comme les arbres qui cachaient la forêt d'un théâtre qui me semble aller bien au-delà d'Antigone et du Voyageur sans bagage, etc., que je trouve plus intéressant, plus varié, plus moderne.
Vous dites, cet ouvrage, c'est un salut, comme une promenade qui tente de donner des modes de lecture.
Donc, absolument, c'est complètement subjectif. Vraiment, j'ai relu toutes les pièces d'Anouilh, et puis vu les films auxquels il avait participé, il y en a pas mal, comme scénariste, comme metteur en scène.
Ce sont des analyses auxquelles vous vous livrez ?
Je ne suis pas très analytique, c'est plutôt des réflexions très subjectives. Simplement, il se trouve que je connais bien et que j'avais envie d'écrire dessus. Donc, mon livre n'a rien d'universitaire d'une part, d'autre part rien d'exhaustif. C'est une suite de flashs, de points de vue, de réflexions, vraiment amenées par une relecture d'Anouilh.
Bernard Beugnot, vous avez lu le livre de Christophe Mercier ?
Quelle question, bien sûr. Parmi les monographies sur Jean Anouilh qui sont assez nombreuses, c'est quand même un des livres marquants parce qu'il n'est pas strictement universitaire comme beaucoup où on a toujours la même biographie, la même succession des pièces. Alors je dirais, c'est peut-être pas analytique comme tu dis, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont des pistes et des suggestions de lecture. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça renouvelle un peu le point de vue sur les pièces et ça invite à considérer Anouilh autrement peut-être qu'on ne le considérait dans beaucoup de monographies, qu'elles soient françaises ou nord-américaines.
Bernard Beugnot, pourquoi utilisez-vous le mot de réhabilitation ? A-t-on besoin de réhabiliter aujourd'hui, en 2010, Jean Anouilh ?
J'espère que ce n'est pas trop subjectif, ce terme, mais c'est que j'ai eu l'impression. Moi, je suis venu à Anouilh adolescent, voyant le rendez-vous de Saint-Lys au théâtre de l'Atelier. Puis quand j'étais rue d'Ulm et étudiant à Paris, j'ai été voir toutes les pièces d'Anouilh qui se montaient. Quand on venait en France et qu'on avait la chance d'avoir Anouilh, on allait le voir. Donc c'est cette admiration qui m'a fait proposer des cours sur Anouilh à l'université et ensuite faire ce petit livre que vous avez évoqué. Mais j'ai eu l'impression qu'Anouilh a eu beaucoup de succès, au fond, jusqu'en 80-87, puis que peu à peu, ça s'étiolait un peu. Il y avait moins de représentations, on parlait moins d'Anouilh. Et on avait attaché à Anouilh une étiquette qui mérite d'être remise en question, l'homme de droite, le réactionnaire. Il y avait un certain nombre de stéréotypes qu'il fallait corriger, sinon effacer. C'est pour ça que je parle de réhabilitation. Et je pense que c'est un succès, vu le succès de la Pléiade.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre vous, Bernard, et Christophe Mercier, il y a une génération d'écart, on peut dire. Mmh. Et donc, un point de vue qui pourrait être différent, mais qui converge en ce qui concerne Anouilh et l'intérêt que l'on peut porter à cet auteur.
Oui, mes parents, qui sont de la génération de Bernard et qui sont médecins tous les deux, qui ont fait leurs études à Paris, avaient pris l'habitude, dans les années 50 à Paris, d'aller voir les pièces d'Anouilh. Et ensuite, j'y suis venu avec le même point de vue que pouvait avoir Bernard. Et ensuite, quand de province, je venais avec mes parents à Paris, on allait voir s'il y avait une pièce d'Anouilh, en 1975 avec l'arrestation, s'il y avait une pièce d'Anouilh qui était représentée, j'allais la voir, etc. Et donc j'avais aussi le point de vue sur Anouilh qui était le point de vue de gens de la génération de Bernard Beugnot et qui avaient connu Anouilh en fait, dans les mêmes circonstances comme étudiant à Paris dans les années 50. Et
Colombe Anouilh, ce travail d'écriture, est-ce que ça a été quelque chose que lui a vécu complètement de son côté et en tant que professionnel ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a partagé avec vous ? Est-ce que ce sont des souvenirs qui s'accrochent au travail d'écrivain de votre père, au travail d'auteur et d'écrivain du père ?
J'étais trop jeune, de toute façon, pour donner mon avis. Il ne nous faisait pas partager, en tout cas à ses enfants, ses écrits.
Des premières lectures ?
Du tout. On avait le droit à quand même... Il lisait ses pièces merveilleusement bien, il était connu pour ça. Et j'ai assisté, quand j'étais là, effectivement, à ses lectures qui se passaient dans le salon. Et c'était formidable, ça. Sinon, de son travail, non, il ne m'a jamais fait partager, non, jamais. La seule chose que j'ai partagée, plus que les autres d'ailleurs, c'est que j'avais le droit, parce que j'étais la dernière, enfin j'étais la dernière, j'étais pas la dernière, mais la dernière à Paris, parce que ma dernière sœur est suisse, j'avais le droit d'assister aux répétitions. Et ça, j'ai été la seule. C'est-à-dire que je montais au poulailler, enfin, ils me mettaient au poulailler, et parce que les acteurs n'aiment pas qu'il y ait un étranger ou un adulte, surtout. Alors, papa disait, mais elle est trop jeune. J'avais beau avoir, la dernière fois, c'était au moment du nombril, c'était l'année de mon mariage, donc j'étais quand même une adulte, on va dire. Et il disait, elle est jeune, elle est très jeune. Et là-dessus, je pouvais assister aux répétitions. Ça, j'ai eu droit à ça, j'ai eu cette faveur. Une qui m'a vraiment beaucoup marquée, que j'adorais, qu'il adorait lui aussi, c'était Les Poissons Rouges. Avec Jean-Pierre Marielle et Michel Galabru. Et ça, c'était étonnant.
Et une pièce porte votre prénom.
Oui.
Expliquez-nous.
Alors non, je suis née plus tard. Ça, c'était ma sœur Caroline qui est née au moment de cette pièce.
Alors vous portez le prénom de l'un des personnages.
Oui, je l'aime beaucoup. Père. C'est presque une de mes préférées parce que justement, elle est assez féministe, Colombe, et ça me va bien. Et donc, je porte ce prénom après aussi parce que Sainte Colombe est à Sens. C'est la sainte de Sens. Et ma mère est née à Sens. Et puis j'ai appris plus tard que Becket, Thomas Becket, s'était réfugié à l'abbaye royale de Sainte-Colombe pendant plusieurs années. Et ça, mon père ne me l'avait jamais dit. Maman m'avait dit aussi qu'une chose qui avait été importante aussi, elle lisait Marivaux quand elle était enceinte de moi. Et dans un, je ne sais plus quelle pièce, il y avait écrit « À ma femme Colombe » ou « Ma tendre femme ». La femme de Marivaux s'appelait Colombe et Marivaux a beaucoup aimé sa femme. Donc voilà, tout ça fait que voilà, je m'appelle Colombe et je suis très,
que
très contente.
Très
c'est,
bien
ah non, mais
ce
c'est
prénom.
Un cadeau, c'est un cadeau ce prénom. Hein.
Alors, Jean Anouilh, né le 23 juin 1910 à Bordeaux, en Gironde. Le père de Jean Anouilh, donc votre grand-père, Colombe, était tailleur et sa mère musicienne, professeure de piano. La musique a compté dans l'œuvre de Jean Anouilh.
Exact. Écoute. été, oui, sûrement. Il ne nous a pas vraiment fait partager tout ça, mais...
Vous avez connu votre beaucoup. Grand-père, votre grand-mère ?
Non, du tout. J'ai connu aucun de mes grands-pères, malheureusement. Mon père l'a beaucoup aimé, vraiment, énormément, et il s'en est merveilleusement bien occupé. Donc j'aime beaucoup ce grand-père que je n'ai pas connu. J'ai son tableau, j'ai eu la chance d'hériter de son tableau, et je sais que c'était quelqu'un de très très bien, de très gentil.
Alors on dit que c'est au lycée Chaptal que l'amour pour le théâtre s'est manifesté chez votre père, Bernard Beugnot. Ses souvenirs de lycéen, est-ce qu'on en trouve trace dans des écrits dans
À
des...
ma connaissance, il n'y a pas de trace. C'est évoqué dans un petit fascicule des cahiers Renaud Barreau, où il évoque effectivement avec Jean-Louis Barreau cette rencontre à Chaptal, mais on n'a pas de document, à ma connaissance, où il évoque cette période-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il a écrit des textes de théâtre très tôt, puisque j'ai trouvé à la bibliothèque de l'Heure Joyeuse un premier texte dramatique.
De
il avait 15-16 ans.
15-16 ans.
Donc il commence à écrire. Et d'ailleurs, il dit quelque part qu'il écrivait des pastiches d'Ostende. Donc il a fait des premières écritures dramatiques très jeunes. Et ça, je pense que c'est une chose qu'il faudrait explorer, c'est reprendre chronologiquement tous les documents qu'on a. Dans les inédits conservés à l'université Yale, il y a aussi un certain nombre de textes où on voit se forger, non pas le goût du théâtre qu'il avait déjà, mais l'expérience de l'écriture, les personnages, les thèmes, les profils. Donc la genèse détaillée de l'arrivée d'Anouilh dans le théâtre reste en partie à explorer.
Justement, cet amour pour le théâtre, comment l'explique-t-on? Puisque de par ses parents, il n'était pas né sur les planches.
Ben, je pense que les vocations, ça doit exister. Je ne suis pas psychanalyste, je ne peux pas dire pourquoi.
Mais il ne sait pas... Et penché là-dessus, on n'a pas
non.
de...
Je pense que ça tient aussi à ses lectures, parce qu'il disait, par exemple, La Petite Illustration et beaucoup d'auteurs contemporains. Il allait beaucoup au théâtre, donc ça a été une fascination.
On parle de Cocteau, de Jean Giraudoux, qui l'aurait influencé, qui lui aurait
oui,
donné
c'est ses premières
envie.
Admirations.
Je sais pas, parce que il en parle comme étant les pièces qu'il a beaucoup revues, comme ça quand il avait 17-18 ans. Pas forcément des influences, mais des pièces qu'il a beaucoup vues. Ouais.
Il ne les a pas rencontrées, à votre avis?
Il dit qu'il a, je crois, il a vu Giraudoux une fois, je crois, pendant la guerre.
Dans un dîner, ouais. Je crois, enfin, c'était anodin. Tout à fait anodin.
Bah, Cocteau, en revanche, je suppose qu'il l'a connu après la guerre.
Ils se sont connus, mais peu. Hein.
Ouais, peu
vraiment,
ouais.
À un dîner.
Ils, sont, ça, ils ont dû se croiser, c'est ça?
C'était plutôt des relations mondaines, mais pas professionnelles ou techniques.
Mm-hmm. Il faut dire que papa n'était pas un mondain. Il n'aimait pas les sorties. Hein. Non, c'est vrai. Même jeune et tout ça, ce n'était pas son truc.
C'était un homme d'atelier.
Du tout, du tout. Ouais, ouais.
Il travaillait énormément.
Oui, il travaillait beaucoup le matin, mais pas mondain du tout.
Alors, il travaille pendant 2 ans dans une agence de publicité, entre autres. Et il y rencontre des personnalités comme Jacques Prévert et Jean Orange. C'est drôle, dans un univers qui n'est ni littéraire, ni théâtral, de rencontrer...
Oui et non, ça fait partie des hasards de l'existence. Je crois que... Enfin, c'est lui-même qui le dit quelque part, que le fait d'avoir appris à rédiger des concepts publicitaires ou des formules, c'est sûr que ça prépare aux répliques de théâtre. Il y a un côté spectacle et un côté expression ramassée qui n'est sûrement pas étranger, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin.
Une formule publicitaire signée Prévert ou Anouilh, ça vaudrait maintenant 100 pesant d'or.
Mais d'ailleurs, il y a dans les inédits un texte sur Au Cap, je ne sais pas si tu te souviens de ça, qui était une sorte de friction pour les cheveux, si je me souviens.
Oui, des petits sketchs. Ouais.
C'est un texte. Okay,
et voilà. Signé Jean Anouilh.
Oui.
Ah oui? Et vous vous en souvenez de la formule?
Ah non,
au Cap
ça,
Vert.
Non,
oh,
c'est plus une formule, c'est 3 petits sketchs qui s'enchaînent, qui ont été publiés. Enfin, la table ronde a sorti ça l'an dernier sous le titre Pièce juvénile. Il y a 3 petits sketchs qui sont comme des petits sketchs de théâtre, en fait, avec une petite fille qui se met. Sa maman lui dit il faut que tu te mettes au cap. Il y a un petit garçon dans une. Enfin, je sais qu'il y en a 3 comme ça qui s'enchaînent plus ou moins.
Et c'était diffusé où? À la radio?
À la radio, je pense.
Mais c'est intéressant parce que quand on a comme ça 3 petits textes, on peut mesurer le passage de ce qui va être la formule unique d'une publicité à ce qu'est l'ébauche d'une scène dramatique. Donc là, on saisit vraiment ce qu'est la genèse. Malheureusement, tous ces textes ne sont pas rigoureusement datés, mais on peut saisir la genèse de cette vocation théâtrale, l'explosion même.
Que peut-on dire des 2 années, je crois que c'était 1929 et 1930, pendant lesquelles Jean Anouilh est secrétaire du comédien Louis Jouvet à la Comédie des Champs-Élysées? Alors, c'est une collaboration, dit-on, houleuse, mais qu'en sait-on? Exactement. Louis Jouvet aurait sous-estimé les ambitions littéraires et les talents littéraires de son employé.
C'est ce qui s'est toujours dit. Enfin, c'est...
J'ai rien trouvé, si vous voulez, qui enrichisse ce que confie Anouilh lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, les relations ont été difficiles. Que Jouvet n'ait pas senti le talent futur d'Anouilh, c'était quand même tout un... Il était au début de sa carrière. Peut-être que Jouvet n'était pas facile, mais j'ai rien trouvé, si vous voulez, qui permette de détailler les relations Jouvet-Anouilh. C'est tout ce que devrait faire un biographe, d'ailleurs. Si un jour s'élabore une biographie d'Anouilh, qui est un travail énorme,
mais est-ce qu'il reste, est-ce qu'il y a des traces écrites, est-ce qu'il reste... Ce qu'on sait, Anouilh a raconté plus tard qu'il avait... Après-guerre, quand il était déjà un dramaturge connu, il avait donné la valse des Toréadors donc dans les années 50-52, à lire à Jouvet, c'était peu avant la mort de Jouvet d'ailleurs, et que Jouvet n'a pas voulu la mettre en scène en disant que c'était des gens qui ne l'intéressaient pas et qu'il n'aurait pas voulu dîner et qu'il n'allait pas passer du temps à faire la mise en scène d'une pièce dont les personnages ne les trouvaient pas fréquentables. Enfin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, pareil.
Là, il y a tout un côté anecdotique qui est souvent difficile de vérifier. Et les gens de théâtre ne sont pas toujours des gens faciles.
Et là, en 1930, le comédien Louis Jouvet était à l'apogée de son...
Ah bah oui, là, c'était quand même déjà... Il était...
Sa reconnaissance.
Oui, oui, il était... c'est peut-être aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait une différence de réputation déjà qui était installée. Jouvet était quelqu'un d'installé, metteur en scène connu, et puis un petit auteur débutant.
Bah, c'était la grande époque de Giraudoux. C'était le début des premières pièces de Giraudoux qui avaient été écrites à l'instigation de Jouvet. Donc le tandem Giraudoux-Jouvet entre 28 et 40, ou 39-40, vraiment. Ça a été, il y avait une pièce par an, c'était le tandem auteur-metteur en scène.
Et les relations Anouilh-Giraudoux?
Ils ne se connaissaient pas. Ils sont croisés au repas pendant la guerre.
Mais pour Jouvet, juste, je sais que mon père voulait quitter cette ambiance. Il ne se sentait pas aimé du tout, puisque Jouvet, c'est vrai, l'appelait le miteux. Et papa m'avait dit, alors je me souviens bien, qu'il s'était accroché, comme papa était pauvre, la seule chose qu'il avait, c'était le fruit de son travail à la Comédie des Champs-Élysées. Il m'avait dit, je crois que Jouvet a voulu le renvoyer. Et papa s'est accroché, il me dit, je savais que j'avais quelques mois. Après, il a été appelé, c'était la guerre.
Oui, après, il était...
Voilà. Où il s'est accroché à son truc, il supportait plus l'ambiance, mais il s'est accroché à ses sous parce qu'il n'avait pas de quoi bouffer.
Il a quand même dû y avoir un moment, parce que votre père a été appelé, je suppose, comme tout le monde en 39, et entre 32 et 39, il y avait quand même eu des pièces qui avaient eu du succès avant. Il y avait eu Le Sauvage, il y avait Le Voyageur, il y avait eu Le Ocadien en 40, et il était déjà plus du tout à la Comédie des Champs-Élysées. Donc entre le moment où il était chez Jouvet et le moment où il a été appelé, il était devenu un auteur.
Je sais qu'il y a eu quelque chose où il a dû attendre. Il dit,
Peut-être quand votre sœur aînée est morte. Il a raconté aussi qu'il vivait dans le décor de je ne sais plus quelle pièce de Giraudoux parce qu'il n'avait pas de meubles pour se meubler avec Modèle Valentin et sa fille Catherine, donc votre sœur, et que Jouvet lui avait prêté le décor de je ne sais, donc ce n'était pas une pièce antique de Giraudoux, ça devait être une pièce plutôt contemporaine, pour meubler le petit appartement qu'il occupait avec sa femme, avec sa fille.
Je sais qu'il y a eu quelque chose, il avait parlé de ça, en disant j'ai serré les dents, j'ai avalé les couleurs, j'ai tenu le coup jusqu'à ce que j'ai... Alors peut-être c'était un autre travail, ou c'est sa première pièce qui a été jouée, j'en sais rien, je sais pas.
Est-ce qu'il a quand même eu du succès assez vite? Il a été joué en 32, après il a fait un four avec Mandarine en 33, mais après il y avait un prisonnier qui est la troisième représentée. On en parlait, enfin, c'est une pièce, quand on voit les extraits de presse de l'époque, tous les critiques littéraires de l'époque... Le Brasilac aux auteurs de gauche en parlait, aux critiques de gauche.
Il s'était déjà fait un nom.
Il s'était déjà fait un nom.
Mais la recette était peut-être
comme le dramaturge de l'avenir.
Vraiment, c'est dès la deuxième pièce. Hein, ça a été très rapide. Hein.
Mais la recette, disons qu'il avait besoin d'un salaire, en tout cas.
Ah ben peut-être.
Donc, voilà. Donc il devait attendre.
En vous écoutant comme ça dialoguer devant les micros de Canal Academy, il y a une chose qui me semble complètement aberrante, c'est que vous échangez des idées, des souvenirs, des à peu près autour de ce grand nom que représente pour la culture française Jean Anouilh, et le fait que vous me disiez qu'aucun biographe ne se soit penché sur la vie d'un auteur pareil, mais je veux dire, pour moi, enfin, personnellement, c'est une aberration. Et comment se fait-il alors? Expliquez-moi que Jean Anouilh n'est pas encore son biographe.
Il l'a écrit lui-même, hein, il suffirait de lire.
Qu'il n'a pas souhaité.
Absolument, mais il le dit lui-même.
Qu'il ne veut pas qu'un biographe...
Oui, même...
J'ai pas de biographie.
Je n'ai pas de biographie.
Oui, je crois que...
La fameuse lettre à Hubert Gignoux qui est citée partout.
Il avait une vie familiale qui était un petit peu compliquée.
Exactement.
Oui, mais qui n'a pas de vie familiale un peu compliquée?
Non, mais à l'époque, à l'époque, on ne disait pas toutes les histoires. C'était très compliqué. Et puis il ne voulait pas faire de peine aussi, papa. C'est ça qui est étonnant. Voilà, c'est ça qui est étonnant. Il ne voulait pas faire de peine aux trois femmes et aux enfants.
C'est vrai aussi qu'il y a une ambiguïté quand on parle d'une biographie de Jean Anouilh, parce qu'il y a deux types de biographies possibles. Ou bien on fait la biographie de l'homme Anouilh, alors sa vie familiale, sa vie officielle, l'homme de théâtre. Ou bien on fait une biographie de l'écrivain et de l'homme de théâtre. Et les deux ne coïncident pas nécessairement. C'est-à-dire, ce sont deux registres qu'il faut harmoniser. Et c'est aussi, je pense, une des raisons, c'est que c'est très difficile, parce qu'il faut des documents. Alors, si on est dans le côté biographique, il faut des lettres, des correspondances, des témoignages. Et puis, il faut harmoniser tout ça sans blesser les personnes, et ça, c'est pas facile. Si on est dans le théâtre, il faut quand même quelqu'un qui soit très familier de l'histoire du théâtre contemporain, parce qu'on n'a pas encore du tout exploité, par exemple, la situation exacte d'Anouilh par rapport aux modes ou aux vogues successives du théâtre. Hein. On a parlé de Bernstein, on a parlé de Giraudoux, mais après, il y a le nouveau théâtre. Comment il se situe. Et quand j'ai employé le mot de réhabilitation, c'est par rapport justement à un discrédit qui était lié aussi à la vogue du nouveau théâtre. Lorsque Ionesco, Beckett, etc. ont occupé le devant de la scène, on a rejeté un peu du revers de la main les auteurs précédents ou de styles différents. Alors c'est quelque chose qui est très compliqué.
Vient nous rejoindre maintenant Philippe Gaxot. Bonjour Philippe Gaxot.
Bonjour.
Prenez place à côté de nos invités. Philippe Gaxot, vous allez nous parler d'une correspondance entre votre oncle, l'académicien historien de l'Académie française, Pierre Gaxot, et Jean Anouilh. Alors, à quoi correspond cette correspondance entre ces deux personnages ?
Tout d'abord, j'ai eu la chance de découvrir dans les archives, les abondantes archives de mon oncle, un certain nombre de lettres de Jean Anouilh. Et en les lisant, j'ai tout de suite vu qu'il s'agissait d'un sujet très intéressant, très important. Et ce qu'il fallait, c'est évidemment réunir la correspondance croisée. Et là, je dois dire que j'étais très, très aidé par la propre fille de Jean Anouilh, Colombe.
Colombe, qui est avec nous aujourd'hui.
Qui est avec nous aujourd'hui. Et également par la dernière compagne de Jean Anouilh, Madame Wetzel, qui, par chance, avait conservé la quasi-totalité des lettres de Pierre Gaxot dans cette correspondance.
Alors, une correspondance rare, puisque Anouilh était un personnage assez en réserve et assez secret.
Voilà. Alors, ce personnage secret, qui refusait, je crois, les interviews, les essais de biographie, etc., là, vraiment, s'ouvre dans cet échange de lettres qui a commencé de la façon suivante. Mon oncle voulait le faire entrer, le présenter à l'Académie française. Alors au début, dans les premières lettres, on voit que Jean Anouilh est un peu, évidemment un peu flatté, etc. Et puis petit à petit, il explique que ça ne lui convient pas et on apprend pourquoi. Et ceci elle paraît très, très important, très intéressant. Également, dans cet échange de correspondance, on peut voir à quel point Anouilh était un homme de grande culture, en particulier une grande culture historique. Tous ces échanges de lettres sont donc extrêmement importants.
Et on a une chance de les lire quand ?
Alors, ces lettres sont publiées, grâce à M. Bernard Beugnot, dans une revue littéraire canadienne, québécoise, qui s'appelle « Études littéraires ». Et un numéro spécial sur Jean Anouilh doit sortir incessamment. Mais nous aimerions tous, évidemment, que cette correspondance soit également publiée dans une revue littéraire française.
Voilà, bien écoutez, c'est une affaire à suivre. Et pour continuer de survoler sa vie familiale, nous en étions donc arrivés à l'année 1931, année de son premier mariage avec une comédienne.
Non, alors justement, pas année de son premier mariage, il ne s'est pas marié en 1931. Non, mais je ne revendique rien du tout, il aurait dû le faire, j'en sais rien, moi, je suis contre le mariage, de toute façon.
Il n'épouse pas, mais il connaît la comédienne Monelle Valentin.
Voilà. Et il ne dit pas à sa fille, jusqu'à très tard, hein, sa première fille,
Catherine.
Ma demi-sœur, Catherine, il lui fait croire qu'il a épousé sa mère. Et Catherine était persuadée jusqu'à très tard, hein, très très tard, que
Jean Anouilh avait épousé sa maman.
Voilà. Et même, je crois qu'il a même inventé une date, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit « Mais non, mais Catherine m'a dit qu'il l'avait épousé. » Non.
Alors, ça
va vous amuser parce que, en réalité, après, il a rencontré maman qui était très jeune, hein, qui avait 18 ans de différence avec mon père. Et c'est après deux enfants qu'il l'a épousée. Moi, je suis la troisième, je suis la seule légitime, on va dire. On a droit à tout. Il a eu deux naturels. Il y a eu Catherine, après Caroline et Nicolas. Et au bout du deuxième enfant, là, il a dû se dire, on va l'épouser.
On officialise.
L'a épousée. Alors, mais on officialise, mais il l'a officialisée. Il est parti pour l'Angleterre, dans un petit village, un village où habitait son agent littéraire formidable, qui s'appelait Jan van Leeuwen. Agent littéraire, on ne fait plus ce genre d'agent littéraire, ça n'existe plus de nos jours. Donc, il l'a pris comme témoin. Je crois qu'il n'y en avait qu'un, même témoin. Et puis, quelqu'un d'autre sur place. Et il a été l'épouser, mais en catimini, mais en secret total. Parce que la première femme de mon père, donc première femme qu'il n'avait pas épousée, il fallait surtout pas qu'elle le sache, sinon ça allait être dramatique. Voilà. Et s'il n'a pas divorcé de maman, ce que je trouve finalement vraiment dommage, parce que finalement, c'est les enfants qui en pâtissent de tout ça.
Donc, il n'y a pas eu de divorce avec
votre
mère.
Il n'y a pas eu de divorce.
Mais un nouveau couple s'est formé avec une autre...
Ursula Wetzel, dont il a eu Anouk. Tout était compliqué parce qu'Anouk est née. La loi sur les enfants adultérins n'était pas passée encore. Donc Anouk s'appelle Anouk parce que le prénom est le plus proche de Anouille. Elle s'appelait Anouk Wetzel. Et après, que la loi soit passée, elle a pu porter le nom de mon père. Vous voyez, tout ça, c'est très compliqué dans les familles. Je le comprends très bien. Pourquoi irait-on dire à tout le monde toutes ces histoires qui, finalement, intéressent qui ?
Oui, là, je crois qu'on touche à ce que vous venez de dire, nous fait toucher du doigt le problème d'une biographie. Parce que tout ça, c'est intéressant quand on connaît Anouille. Mais dans une biographie, il faudrait que ce soit très brièvement évoqué. Bon, on met les faits, mais au fond, il n'y a pas besoin d'élaborer ni de porter de jugement moral ou autre sur ce genre de situation.
Bon, une biographie
entre parenthèses, c'est ce que vous avez fait, plus ou moins, dans la Pléiade.
Ah oui, j'ai gommé beaucoup de choses.
Oui.
J'ai une petite question pour Colombe. Ne pensez-vous pas que cette réticence vis-à-vis du mariage, qui est évidente après ce que vous venez de nous dire, est-ce que ça n'est pas un refus de la cérémonie publique, comme l'intronisation à l'Académie, des choses comme ça, et conserver sa vie privée dans une coquille, non ?
Je pense que oui. Vous avez tout à fait raison. Je pense que oui. Parce qu'il a eu une sorte de même réaction au moment de mon mariage. Comme moi, j'ai fait on appelle ça un beau mariage. Et effectivement, c'était un mariage qui n'était pas comme le sien.
C'était pas clandestin.
Non, c'était pas clandestin. Voilà. Et il a eu une réaction mais vive là-dessus, en disant « Mais pourquoi tu te maries comme ça ?» À tel point que ma belle-mère lui a même dit « Mais écoutez, venez pas. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. » Et il est venu. Et ça s'est très, très bien passé. Il a adoré. Et là, il s'est décontracté. Il était très content. Mais il a effectivement, vous avez raison, tout ce qui est cérémonie, il est bloqué.
Même chose quand il a été invité, je crois, une fois par Rainier de Monaco. Il est arrivé dans sa petite bagnole. Il était effaré par la cérémonie, le cérémonial qui entourait tout ce petit palais, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Vous avez raison. Je n'avais jamais pensé à ça, mais ça, c'est tout à fait raison.
Mais on est un peu surpris. Tous ces personnages évoluant dans le milieu du théâtre... Anouilh ne se serait-il pas fait piéger par son image de moraliste ?
Non, il avait une image d'auteur de droite à tort, mais ça c'est une image de moraliste jamais. Bon, il a écrit des petites fables après qui sont des fables plutôt politiques, antigaullistes, etc. Mais antigaullistes surtout, mais qui ne sont pas du tout des fables de moraliste comme La Fontaine, qui sont des fables politiques, hein. C'est de la satire politique, un petit pamphlet politique sous forme de fable. Mais son théâtre n'a jamais été considéré comme un théâtre de moraliste. Ça n'a jamais été simplement ce qui est assez amusant. Il était considéré jeune comme un auteur d'extrême gauche dans les années 30, les critiques, il y avait un prisonnier, etc. Brasillach, qui admirait par ailleurs beaucoup Anouilh, disait mais que c'était un dangereux trublion. Il représentait un théâtre moderne, une forme moderne de théâtre d'extrême gauche. Et dans les années 50, après la guerre, il fait exactement le même théâtre, mais au lieu d'être joué par des metteurs en scène d'avant-garde comme Pitoff, etc., avant-guerre, il choisit d'être joué à la Comédie des Champs-Élysées, dans des théâtres bourgeois. Il écrit exactement les mêmes pièces et des pièces beaucoup plus modernes, si on peut dire, après la guerre qu'avant la guerre. Mais les critiques n'ont pas pris la peine véritablement de les regarder. Et dans la mesure où il était joué dans des théâtres riches, des théâtres de la rive droite, etc., etc., on l'a considéré comme un homme de droite. Il écrivait le même théâtre, il est passé d'une image d'homme de gauche à une image d'homme de droite. Mais jamais il a été considéré comme un moraliste.
Comment expliquez-vous cette image qu'il y a,
voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. S'il n'a jamais été qualifié de moraliste, c'est moi qui l'ai qualifié de moraliste dans l'introduction de la Pléiade, parce que je crois qu'on peut le situer dans la tradition des moralistes du XVIIe. En tant qu'admirateur du XVIIe, il y a beaucoup de caractères qui sont communs, ne serait-ce que sa vision baroque du monde, le monde comme théâtre. Mais il y a un mot sur lequel je voudrais revenir, que vous avez employé, qui est le mot de piéger. Je crois justement que Anouilh ne s'est jamais laissé piéger. Que toutes les images qu'on a pu lui attacher, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient de droite, je me demande si ce n'était pas plutôt pour lui un refuge. C'était le masque de sa tranquillité. Au fond, il s'en amusait, il ne pensait pas si c'était vrai ou si c'était faux, mais il était très tranquille, à l'abri de cette étiquette qu'on lui avait collée. Mais je ne crois pas qu'il soit fait piéger au sens où il n'aurait pas été conscient de ce piège.
Ces étiquettes politiques, entre guillemets, dont vous venez de nous parler, fait penser aussi à Ionesco, qui a été considéré longtemps comme un extrême-gauchiste.
Qui a fini par écrire au Figaro et est considéré comme un extrême-droite.
Bien sûr,
mais c'est évident. Et aujourd'hui, quand on parle de Ionesco, les gens ont l'impression que c'est un affreux réactionnaire parce qu'il a commis des articles en parlant du régime communiste dans le Figaro. Alors aussitôt, il est passé pour évêque de droite. Bon, c'est tout aussi ridicule.
C'est tout aussi grotesque aussi pour l'un et pour l'autre.
Alors, à la Libération, il s'érige contre l'épuration.
Ouais. Ça a été quelque chose de très important.
Voilà,
il y a un très beau texte d'Anouilh qui est un des textes. J'aime pas tellement la prose d'Anouilh, j'aime beaucoup l'auteur de théâtre. Quand il écrit en prose, je trouve qu'il a une prose souvent inutilement compliquée. Mais il y a un texte magnifique, et son texte, une préface à un volume des œuvres complètes de Brasillach, dans lesquelles il écrit comme il s'est trimballé, dit comme un marchand de tapis, avec une pétition à présenter à De Gaulle. Il demandait les signatures d'écrivains pour demander la grâce de Brasillach. Il dit que ce jour-là, il a complètement mûri. Et je pense qu'on ne peut pas tellement comprendre le théâtre d'Anouilh et l'évolution du théâtre d'Anouilh après la guerre si on ne connaît pas ce texte sur Brasillach et surtout ce que ça représentait pour lui. C'est-à-dire que son théâtre, qui avant était un petit peu idéaliste, avec ce que j'appelle dans mon livre des parties molles, un peu sentimentales, dont je trouve qu'elles ne vieillissent pas très 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 bien. Ça va jusqu'à l'avant-guerre. Il y a quelques pièces qui ne sont pas entachées, mais avant-guerre, quand même, en général, il y a ça. Et après la guerre, et après ce temps avec la pétition pour la grâce de Brasillach, là, il a vraiment mûri, il n'est plus du tout idéaliste, et il donne un théâtre complètement sec, complètement stylisé, qui est le Grand Théâtre d'Anouilh.
Il était jeune, il avait 34 ans. En 1945,
il écrit « J'avoue avoir une certaine compassion pour les vaincus et redoute les excès de l'épuration.
» Oui, c'est pour ça aussi, puisqu'on parlait de biographie tout à l'heure, je crois qu'une entreprise préalable à toute biographie, ce serait une édition de la correspondance. Parce que c'est grâce à la correspondance qu'on pourrait découvrir un homme autre que ses images. Et vraiment voir ce qu'était l'homme Anouilh en profondeur par rapport à toutes ces étiquettes, toute cette façade qu'il adoptait lui-même en s'en amusant. Parce qu'il y a toute une ironie aussi chez votre père. Il y avait une dimension, il s'amusait sûrement.
Il y avait humour.
Oui, c'est ça. Enfin, humour, ironie, mais enfin... ironie vis-à-vis de soi-même aussi. Enfin. Donc une correspondance serait un instrument décisif pour justement montrer ces évolutions profondes et comment l'être, parce que l'être moral qu'était Anouilh, s'est métamorphosé, a évolué et ne coïncidait pas avec les images et les étiquettes.
Reprenons dans l'ordre chronologique l'énoncé de ses œuvres. Et puis, si vous avez des anecdotes, des interventions, des informations, des explications, n'hésitez pas. Donc, en 1932, Jean Anouilh fait représenter sa première pièce, Humulus le muet, avec Jean Orange, en collaboration avec Orange. Et ce n'est pas une réussite, il paraît.
Humulus le muet, c'est un petit sketch de patronage dont on peut pas appeler ça une représentation. La première pièce, c'est l'Hermine en 32 avec Freinet, qui est une vraie représentation. Humulus le muet, c'est une pièce qui est amusante, enfin qui fait 5 pages qu'il avait écrit avec son copain Orange.
Oui. C'est une pièce de jeunesse.
Peut-être qu'un patronage à faire présenter en 31 ou 2. Enfin bon, on n'en sait rien de plus.
Mais vous voyez, on met des étiquettes, c'est un échec, alors que c'était une pièce d'entraînement, quelque sorte.
C'est un petit sketch, ça fait 5 pages, c'est 10 pages.
Sauf qu'on est tenté d'y voir l'amorce d'un thème qui va traverser tout son théâtre, qui est la difficulté de communiquer.
Il l'a écrite à 17 ans, hein, Humulus le muet.
Ouais. C'est dans la même tradition que ces pièces sur Noël qui sont et ses premiers écrits.
Mais on ne peut pas parler vraiment ni de représentation ni d'échec. Si un jeune homme de 22 ans fait présenter une pièce qu'il a écrite quand il en a 17 et de la faire présenter dans un patronage, bon, qu'il y ait 3 personnes ou 15 personnes du patronage qui assistent, on ne parlera pas ni de représentation, ni de succès ou d'échec.
Alors l'Hermine, un petit mot peut-être par
rapport à l'Hermine. Oui, l'Hermine, c'est sa première, sa première vraie pièce.
Avec un personnage féminin, l'Hermine.
Oui, avec surtout, il y avait Freinet qui jouait le héros, et puis une jeune femme, Monime, c'est ça ?
Oui, Monime. Oui.
Alors ensuite, ce sont les acteurs Georges et Ludmila Pitoev qui vont être engagés dans Le Voyageur sans bagage. Mmh. Ça, c'était en 1937. Et Darius Milhaud, on parlait de l'univers musical de Jean Anouilh, qui en compose la musique. Suite pour violon, clarinette et piano. donc ce voyageur sans bagage.
Il a lui-même rendu hommage dans plusieurs textes au couple Pitref, à la fois comme metteur en scène, comme découvreur, comme acteur, parce qu'il a beaucoup aimé le jeu des Pitref dans ses pièces, et en même temps comme exemple, je crois, d'un couple qui a sacrifié sa vie au théâtre. Ça, c'est quand même un modèle pour ça, parce qu'ils ont toujours été dans la misère, ils ont fini très difficilement. Et pour lui, il était un peu admiratif, au fond, de ce couple qui vouait sa vie, même matérielle, aux pièces et au théâtre.
Puis qui représentait véritablement le théâtre d'avant-garde, à la fois dans les pièces qu'il choisissait, mais surtout dans la mise en scène. C'est-à-dire que c'était les grands metteurs en scène d'avant-garde des années 30. C'était les anti-Jouvet, Jouvet jouait à la comédie des Champs-Élysées, et alors que les Pitoëf, ils jouaient dans les petits trucs avec trois bouts de ficelle. C'était vraiment des inventeurs de mise en scène.
Il était admiratif aussi, justement.
De la pauvreté.
De la pauvreté, mais même, c'est-à-dire qu'il disait qu'ils avaient des coups de génie pour les décors. Il suffisait de peindre une chaise qu'ils avaient, je ne sais pas, trouvée chez Opus, mais simple, une chaise de cuisine. Et il lui suffisait de mettre un coup de doré et ça devenait une chaise Napoléon III.
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, à Nouilly, au fond, il était du théâtre d'avant-garde.
Voilà, c'est ça.
Oui, contrairement
c'est
à l'image qu'il a eue après.
Oui.
Et alors, il avait donné sa première pièce à lire à Jouvet, et Jouvet l'a fait traîner. Et c'est grâce aux Pitoëf et Freinet. Et puis les Pitoëf qui ont monté.
Un peu après, non, les Pitoëf, c'est pour Le Voyageur et puis pour La Sauvage après. Enfin, qui était écrite avant, mais qui a été jouée après. Mais la première, c'est vraiment... il raconte un moment, je crois qu'il l'a fait lire à Freinet, qui connaissait par Laudenbach, ou Laudenbach par Freinet, je ne sais pas. Et que Freinet l'a lu comme ça dans la nuit.
C'est la même famille.
C'est la même famille, mais c'est un cousin germain.
Freinet,
c'est le cousin germain de Laudenbach. C'est un cousin germain de Roland Laudenbach, ouais. Alors, je ne sais pas si votre père était copain d'abord de Roland Rollenbach ou de Pierre Rollenbach, mais de l'acteur ou du futur éditeur. Mais...
Et la collaboration ensuite avec André Barsac commencera à partir de 1938 avec Le Bal des voleurs.
Oui.
Et une collaboration qui va durer 15 ans. Si vous pouviez nous parler de cette collaboration fructueuse.
Ça a été quand même la grande collaboration, le grand metteur en scène d'Anouilh. D'ailleurs, il y a un livre de Jean-Louis Barsac, qui est le fils
d'André
Barsac, qui fait l'historique, au fond, de ses relations, qui cite des documents et qui montre combien ils ont joué l'un pour l'autre. Anouilh a servi, je pense, la carrière d'André Barsac, mais André Barsac, à part ses mises en scène et ses décors, beaucoup. D'ailleurs, il y a une correspondance qui est conservée à la Bibliothèque nationale, qui est tout à fait intéressante entre les deux.
Alors, Antigone, pendant l'occupation allemande, le 4 février 1944, au Théâtre de l'Atelier, Antigone est jouée dans une mise en scène, justement, d'André Barsac. Alors, par rapport à cette Antigone, Bernard Beugnot, toutes les analyses qu'on a pu en faire, ce personnage...
Oui, moi je suis, pour vous dire franchement, un peu fatigué d'entendre parler d'Antigone. Je souhaiterais qu'on la mette au purgatoire pour quelques années.
Pas moi ! Je la trouve formidable.
Ah non, mais ce n'est pas une critique de la pièce.
Je trouve que ce
n'est pas du tout une critique de la pièce, ouais, mais on en parle trop et elle a tendance...
Elle a tendance à cacher tout le reste.
Voilà, ça masque le reste de l'œuvre.
Elle apporte tellement aux jeunes.
Ah oui, mais non, en même temps...
C'est incroyable.
Oui,
non.
Mais c'est aussi parce qu'on ne leur parle que de celle-là et pas des autres.
Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est une très belle pièce, mais ce n'est pas là que votre père est le plus novateur. Enfin, je veux dire, Antigone, finalement, Giraudoux, quand il fait Les Gardes de Troie n'aura pas lieu, il écrit une pièce qui... pas si différente que ça d'Antigone. Il reprend à travers une histoire antique, etc., et qui met au goût du jour, qui l'adapte au goût du jour. Donc, c'est pas là qu'Anouilh est le plus novateur. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est devenu le pont aux ânes de tous les profs de lycée qui font la comparaison. Même vous, là, vous citez, vous avez eu un jour un devoir à faire sur la comparaison de l'Antigone de Sophocle et celle d'Anouilh. Et votre père avait répondu pour vous. Avait fait votre devoir.
Bah oui, j'allais pas me priver quand même.
C'était écrit avant l'Antigone de Cocteau.
Oui, l'Antigone de Cocteau, c'est les années 30. Hein.
Oui, il me semble. Oui, elle est antérieure.
Oui, parce qu'il y a trois Antigones.
Mais c'est-à-dire que sur Antigone, il y a aussi toujours ces débats qui reviennent. Est-ce qu'Antigone est collaboratrice? Est-ce qu'elle est résistante? Tout ça, c'est des fausses questions.
C'est quoi le jour des petites affiches rouges, rappelez-nous?
Ah bah ça, c'est un épisode qui est tardif, c'est 43 si je me souviens. C'est au moment où il y avait un groupe de résistants, d'origine surtout arménienne, si je me souviens.
Je sais pas du tout.
Et que les Allemands avaient finalement démasqué... Et ils avaient affiché leur nom sur une affiche rouge qui était placardée partout. Et ils étaient 12 ou 13, je crois, étaient tous fusillés ensuite. C'est vraiment un des épisodes les plus scéniquement dramatiques de l'occupation allemande.
Parce qu'Anouilh écrit l'Antigone de Sophocle, lu et relu, et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges.
Parce qu'on ne sait pas exactement à quelle date il a écrit Antigone. On pense que c'est 42. Le manuscrit est un peu ambigu. puis un 42 à la fin.
Il dit, je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre.
C'est ça. Donc il y a une application, c'est ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'application. Le phénomène de l'application, c'est le fait de transposer un texte ou un événement hors de son contexte pour lui donner un nouveau sens. Et au fond, c'est ça. Antigone, ça peut se transposer dans n'importe quel contexte et se lire de façon différente, suivant que...
L'allégorie de la résistance, représentée par le personnage mythique,
oui,
Antigone.
On peut, oui, mais on peut toujours...
Elle n'est pas plus résistante que l'Antigone de Sophocle. Enfin, c'est des contextes politiques.
Quand on a fait des faux procès à nous, alors ensuite, après la guerre, en disant qu'il a fait représenter Antigone pendant la guerre, et on l'a interprété. Alors d'une part, quand ça a été représenté même, c'était considéré comme une pièce résistante, et c'est devenu une pièce collaborationniste, on peut dire, après la guerre, voilà. Après la guerre, parce qu'à nous, il n'avait pas pris parti du bon côté, parce qu'à nous, il avait été classé comme quelqu'un de droite, parce qu'il avait pris parti pour Brasillach. Enfin, tout ça est quand même très, très mélangé. Et bon, d'une part. D'autre part, tous les grands dramaturges de la génération d'Anou, on n'a pas fait tant de salades. Monterland a créé La Reine morte en 1942. Sartre, Huis clos, je ne sais pas quand ça date, mais c'est à peu près cette époque-là. Et Les Mouches, c'est aussi... Bon, et Les Mouches, c'est une belle pièce, mais aussi, on peut l'interpréter plein de façons différentes. On n'a pas tant enquiquiné Sartre, parce qu'il a fait représenter Les Mouches, qui est une pièce qui se prête aussi à plusieurs interprétations, qu'on a enquiquiné Anou. C'est simplement parce que Anou, ensuite, avait choisi de dire la politique m'enquiquine, je suis complètement indépendant, il était complètement anard, et comme les vrais anards, il était plutôt à droite, donc voilà, c'était un anard de droite, et cette image lui a bien plu, et ça lui a collé à la peau, et il a laissé dire toutes les interprétations qu'on a pu faire ensuite d'Antigone. Mais,
oui, parce que quand on a dit que Créon, finalement le triomphe de Créon, c'est le triomphe des occupants et des nazis contre les résistants, mais genre, c'est le mythe. Ce n'est pas une invention d'Anouilh de faire que Créon l'emporte sur Antigone.
Maintenant, les jeunes... qui étudie Antigone, comme Amine, qui va étudier Antigone cette année, qui est là, qui a 14 ans. Pour lui, ce n'est pas la guerre en France. Hein, il étudie à Rabat, au Maroc. Donc, il ne va pas s'intéresser au contexte, j'imagine, français.
Oui,
hein. Pour lui, ça va être quoi ? Ça va représenter... Antigone va représenter
peut-être
quoi ?
Peut-être qu'on peut transposer dans le Maroc, j'en sais rien.
Non, moi je transpose tout simplement, c'est ce que me disent les jeunes, c'est vraiment les adolescents contre l'adulte.
Oui, il y a ça aussi.
Et c'est ça qu'ils ressentent.
C'est la révolte de l'adolescence.
Pourquoi
c'est
Antigone traverse le temps ?
Parce que c'est une bonne pièce.
C'est une bonne pièce, mais qu'elle est adaptable maintenant.
Parce que c'est une pièce qui est suffisamment riche pour s'adapter à différentes circonstances. Autant, bien sûr. Ouais.
Autant.
Oui.
Oui, mais il y a d'autres pièces de votre père dont on pourrait dire la même chose. Si vous voulez, quand je réagissais tout à l'heure, c'est, je trouve qu'elle mobilise un peu trop l'attention.
Parce qu'effectivement, elle monopolise
la séduction, quand j'y réfléchis rétrospectivement, la séduction qu'exerce le théâtre de Jean Anouilh sur l'adolescence, c'est permanent. Moi, c'est comme ça que j'ai été séduit. Avec le sentimentalisme, avec l'idéalisme, avec la pureté. Quand la première pièce que j'ai vue, c'est Le Rendez-vous de Senlis. Ben, Le Rendez-vous de Senlis, c'est très émouvant quand on est adolescent, cet amour qui veut tout transporter, ces ruses pour faire triompher théâtralement la passion en inventant des faux parents. Au fond, c'est ce qu'on éprouve quand on est adolescent.
Je devais être plus cynique, même adolescent, parce que même ado, j'aimais bien les pièces à partir d'Ardel, enfin les trucs plus secs, plus pervers.
Oui. Voilà. Mais je n'avais pas du Ardel à ce moment-là.
Même adolescent, les pièces d'avant-guerre, un peu, mollassonné.
Et que pensez-vous
de cette analyse ? On n'est pas de la même génération.
De cette analyse, dans l'univers noir d'Anouilh, il y a deux sortes d'hommes qui s'affrontent, les gens pour tous les jours et les héros. Alors, la race nombreuse des gens pour tous les jours comprend deux catégories assez distinctes. D'abord, les fantoches, égoïstes, mesquins, plats, vulgaires, vicieux, méchants, contents d'eux-mêmes et de la vie. Ce sont dans la plupart des cas les pères et les mères des héros. Ensuite, il y a le groupe des gens dignes, intelligents, mais incapables de grandes aspirations, faits pour une vie tranquille, sans complications. Et les héros, jeunes pour la plupart, s'opposent également à ces deux groupes nombreux en rejetant le bonheur commun où ceux-ci se complaisent, où ils ne constituent pas une catégorie unitaire. Deux types peuvent être distingués, ceux qui ont un passé chargé, auquel ils cherchent à échapper, et ceux pour qui le passé s'identifie au monde pur de l'enfance.
Voilà, hein. C'était écrit quand ?
Pas daté. Voilà, ils sont maudits, ils appartiennent à ce passé, prisonniers de leur passé. Alors, les héros et les gens de tous les jours, c'est facile, ça veut rien dire.
C'est quelqu'un qui n'a pas vu les pièces d'Anouilh d'après-guerre.
C'est le stéréotype et le désir de classement et de catégorie qui s'empare souvent de la critique. Ça rend compte, à mon avis, seulement d'une chose, je ne sais pas si tu es d'accord, qui est propre au théâtre d'Anouilh, mais qui est le ressort dramatique de beaucoup de pièces, c'est qu'une pièce de théâtre repose souvent sur une antinomie, une antithèse ou une oxymore. Donc, pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait opposition. mais au fond, ça relève un peu du lieu commun.
Ben oui.
Mais la révolte contre la richesse, contre le privilège de la naissance, le refus d'un monde fondé sur l'hypocrisie, le mensonge, le désir absolu, la nostalgie du paradis perdu de l'enfance...
Mais c'est du baratin, ça n'a rien à voir avec le théâtre.
Et rien à voir avec Anouilh, avec ses thèmes.
Non, on peut dire que c'est assez juste, et encore, c'est très délayé tout ça, on peut dire que c'est assez juste sur les pièces qui, mettons en gros, je crois, 44-45. Mais c'est pas vrai du tout des pièces ensuite, c'est pas vrai de toutes les pièces avant, parce que même avant, il y a le bal des voleurs, il y a le Leocadia qui sont quand même très différentes, et l'invitation, bon, qui sont très différentes. Donc c'est vrai de toutes les pièces jusqu'en 45, moins deux ou trois. Et puis ça n'a pas un gros intérêt, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans le théâtre quand
et
on parle
pose,
de ça.
Ça pose une autre question, qui est une question, je dirais, théorique, si vous voulez, ou de principe. C'est que, est-ce qu'il faut prendre les thèmes d'un auteur dramatique pour la pensée de l'auteur dramatique ?
Est-ce
une
que
question
ce sont
qui
des
s'est posée sur Molière
ou
aussi.
Pas.
Hein.
Non, hein.
Voilà.
Surtout pas.
Il incarne ses idées dans des personnages différents. Ça ne veut pas dire que les idées de chacun des personnages sont ses idées à lui.
Et si vous aviez à définir le théâtre d'Anouilh, alors, en quelques mots, les uns les autres, quelle est la saveur du théâtre d'Anouilh? Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Qu'est-ce qui vous a rempli d'émotions? Qu'est-ce qui vous a mis en complète complicité avec ce qu'il voulait vous décrire?
Moi, je dirais que c'est un univers qu'il a inventé. Il a créé son univers dramatique. Et ça, il n'y a pas tous les auteurs dramatiques, on peut le dire, on peut pas en dire autant. Donc, c'est un univers qui s'impose à la fois par sa diversité et sa cohérence et qui va chercher, je crois, chez les spectateurs de plusieurs périodes, de plusieurs générations et de plusieurs âges, des choses qui les touchent profondément. Et évidemment, c'est peut-être une question d'âge, mais moi je trouve que ça me touche plus que certaines des pièces abstraites et purement intellectuelles d'un certain théâtre contemporain dans lequel je ne rentre pas. C'est des pièces dans lesquelles on rentre, surtout à la représentation. C'est un peu un théâtre de lecture quand on peut se délecter, mais c'est à la représentation que ces textes prennent toute leur portée. Et j'ajouterais une expérience, si vous voulez, pédagogique, c'est que quand on enseigne Anouilh et quand on enseigne Giraudoux, c'est deux expériences différentes. Giraudoux, il y a beaucoup de déperdition à la représentation parce que c'est un texte extrêmement précieux, extrêmement écrit, et on en perd plusieurs facettes au théâtre, dans le jeu. Anouilh, c'est plutôt l'inverse. Il y a une sorte de mise en valeur, au contraire, du texte par la représentation. Mais en revanche, quand vous pratiquez cet exercice typiquement français qui est l'explication de texte, qu'on a tous fait plus ou moins au lycée, un texte de Giraudoux résiste beaucoup plus qu'un texte d'Anouilh. C'est-à-dire qu'on peut expliquer une page de Giraudoux, passer une heure à la décortiquer. Pour Anouilh, il faut prendre une scène ou une portion d'acte.
Parce que
le texte est plus dramatique, mais plus diffus d'une certaine façon.
Giraudoux, il y a le fait que Giraudoux était normalien, avec souvent cette écriture de normalien très intello, etc. Que Giraudoux n'était pas un homme de théâtre. Il est venu au théâtre parce que Jouvet l'a poussé, mais sinon c'était avant tout un homme de roman. Enfin, c'était un narrateur. Et c'était un homme de mots. Anouilh, il n'était pas un homme de mots. Mais ce qui me frappe le plus chez Anouilh, c'est le côté, c'est du pur théâtre, parce que c'est du jeu théâtral. C'est-à-dire que, contrairement, moi, je suis toujours agacé par le Baradin sur la psychologie des personnages, etc. On parle beaucoup du théâtre de la cruauté d'Artaud, qui est un des textes fondamentaux sur le théâtre moderne, le théâtre de la cruauté. Mais pour moi, le vrai théâtre de la cruauté, c'est pas tant Ionesco, c'est pas tant Beckett que Anouilh, parce qu'il manipule uniquement des marionnettes, il n'y a pas de psychologie, on n'a pas à se poser de questions sur la façon dont ils réagissent les uns par rapport aux autres. Ce sont des pures figures de théâtre, c'est-à-dire ce sont des marionnettes. Le théâtre d'Anouilh pourrait être joué par des marionnettes. Ce sont des marionnettes, ce sont des espèces de personnages qui sont des pures créations de théâtre et qui sont prises dans un jeu théâtral et dans un moment. J'en reviens à ce que disait Bernard. On peut difficilement. Il n'y a pas de grande tirade chez Anouilh, parce que l'important pour lui, c'est le mouvement, c'est le jeu des répliques, c'est la façon dont une pièce avance, chaque réplique en entraînant un autre, les mouvements qui se créent à partir des répliques. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui existe dans la représentation, dans l'action théâtrale même.
Et
c'est
ça, ça se voit dès les manuscrits. Quand on peut que travailler sur les manuscrits d'Anouilh, on s'aperçoit que l'imaginaire visuel de la scène est présent au moment où il écrit. Et c'est présent par la rapidité de l'écriture, parce que c'est le mouvement de la scène qui le guide, c'est pas le travail du style de revenir en arrière, il y a très peu de ratures sur les manuscrits d'Anouilh. Et en même temps, dès le début, il y a énormément de didascalies. Et les didascalies, ça prouve qu'il y a cet imaginaire de la scène, des mouvements de la scène, des réactions des personnages, qui vient doubler la réplique. C'est pour ça que l'étude des manuscrits est extrêmement intéressante. En général, ce sont des ratures au courant de la plume. Mais il n'y a pas de rature supralinéaire qui fait qu'il aurait relu. Il ne relit pas, il réécrit. Quand une scène ne lui plaît pas, il la reprend à zéro et repart du début.
les hommes de théâtre.
Pour être dans le mouvement, pour être dans le mouvement,
c'est ça. Mais il l'a toujours dit, il n'a pas écrit de roman, ni rien, à part les mémoires.
Il y a trois qui sont pas très bonnes. Puis il y a trois nouvelles, dont une, enfin, il y a une qui avait été publiée de son vivant, deux publiées dans des journaux dans les années 30.
Publiée dans Marianne.
Dans Marianne, que Bernard a retrouvée récemment. Et puis une qui avait été publiée dans un cahier Renaud Barrault. Mais ce n'est pas très bon, ces nouvelles, de même que tous ces textes, quand il faisait des éditos dans le Figaro ou des textes d'hommage aux uns aux autres, hormis le texte sur Brasillach, là où il est vraiment porté par une véritable émotion. Mais tous ces textes, en général, quand il essaye de démontrer quelque chose, comme les articles qu'il faisait dans le Figaro, etc., c'est très difficile à lire, c'est très filandreux. On a l'impression qu'il se prend les pieds dans le tapis. Et ce n'était pas un conceptuel, ce n'était pas un intellectuel, Jean Anouilh. Donc, il ne cherche pas, à la différence de Giraudoux, qui peut couper les cheveux en quatre. Anouilh, non, c'est un homme d'instinct, c'est un homme intelligent, d'instinct, très cultivé, plus que l'image qu'il a bien voulu en donner. C'est sûrement quelqu'un qui lisait beaucoup de romans, de mémorialistes surtout, enfin, j'imagine. Donc, on sent un homme très intelligent, très cultivé, mais c'est tout sauf un intellectuel. Et quand il faut qu'il explique de façon conceptuelle une idée, etc., pour faire un article pour le Figaro, etc., en général, on sent péniblement, il essaye de faire des effets, il fait des parenthèses, il se prend les pieds.
Ce sont souvent des textes émotifs. Il réagit à l'émotion. J'ai trouvé récemment un texte qu'on ne citait pas d'Anouilh, publié dans une revue sur la justice. Il y avait eu une affaire, j'ai oublié le nom, une affaire un peu scandaleuse qui était reprise par les justices. Il est intervenu par une préface dans ce numéro du Crapouillot. Et on sent que c'est purement émotif. Il réagit à ce qu'il considère comme une injustice fondamentale.
Donc pour terminer avec les écrits, il y a eu un interlude, ce sont les fables qui sont parfois charmantes ou dures, n'est-ce pas ?
Oui.
Il a travaillé pour le cinéma, la télévision. Il a aussi monté plusieurs opéras. Bernard Beugnot, quand on enseigne Jean Anouilh, comme vous le faites de façon universitaire à des jeunes...
J'ai fait pendant 2 ans, c'est tout. Oui.
Vous l'avez fait pendant 2 ans.
Oui.
Et quelles ont été justement les réactions de tous ces jeunes face au théâtre d'Anouilh ? Comment
l'ont-ils
vécu ? C'était
dans les années 75-80, donc c'est assez anciens. Et finalement, les étudiants réagissaient très bien. Ils ont aimé ça, ils ont lu Anouilh avec plaisir, donc c'est un bon auteur pour l'enseignement. À condition d'adapter évidemment les choses. On n'étudie pas Anouilh comme du Racine ou du Shakespeare.
Pour terminer, a-t-il été accueilli, fêté ou éloigné dans le milieu du théâtre et de la littérature ? Est-ce que ça a été un homme... heureux de par son environnement contemporain, professionnel.
Vous voulez dire dans sa vie ?
Dans sa vie. Est-ce qu'il échangeait beaucoup avec ses collègues ?
J'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'il était en retrait. Il était en retrait.
Été un homme heureux professionnellement de
oui,
par...
très.
Ah oui,
moi,
ça,
on m'a dit à la fin de sa vie, j'ai passé 40 ans de bonheur grâce au théâtre.
Oui, ça c'est sûr.
Oui. Et alors, il travaillait avec Roland, mon parrain Roland Pietri, qui était...
qui mettait en scène.
Oui,
parce qu'on n'a pas parlé, vous parliez tout à l'heure de Barsac, c'est vrai que c'était une période du théâtre d'Anouilh entre 38
pendant enfin, 15 ans.
Pendant 15 ans. Mais après, Anouilh a été aussi un vrai metteur en scène de ses pièces, metteur en scène de Shakespeare, de Vitrac, etc. Il aimait, quand on parle de fabriquer, c'est un manuel, il aimait mettre en scène. Je pense qu'il aimait le moment où la pièce prenait corps. Et toutes les pièces, à partir de 48, à une ou deux exceptions près, il les mettait en scène lui-même, il faisait des décors avec Malclès, il faisait des maquettes et il travaillait là-dessus. Il aimait vraiment la fabrication, enfin, c'était un matériel.
Mais il n'aimait pas les littéraires,
ouais.
Les critiques en particulier, les professeurs. Pour finir sur une anecdote, lorsque j'ai préparé ce livre dans 76, des critiques de notre temps et Jean Anouilh, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit équilibré, c'est-à-dire donner la voix aux dithyrambes, donner la voix à un certain nombre de critiques dont son théâtre avait fait l'objet. Et il se trouve que le responsable, qui était le professeur Pommeau, chez Garnier, il y avait quelqu'un qui était un ami de Jean Anouilh. Il dit, on va demander une préface à Jean Anouilh. Alors, on a contacté Anouilh, on lui a envoyé mon manuscrit. Et il a renvoyé une lettre dont, malheureusement, je n'ai pas retrouvé copie. Une lettre assez méchante, en disant, non, il n'est pas question que je préface ce livre. Parce que j'avais cité des textes sur les réactions, enfin, le caractère réactionnaire qu'on attribuait à ce théâtre. Donc, il n'avait pas aimé ça. Et il disait, non, qu'est-ce que c'est que ce travail des littéraires qui aiment les chures de mouche ? Il avait refusé la préface.
D'accord. Colombe Anouilh, est-ce que votre père a été un homme heureux au long de sa vie ? Est-ce que ça a été un créateur angoissé ?
Ça, je ne peux pas vous répondre. Si ça a été un créateur angoissé et s'il a été heureux, je peux vous dire que c'était un père formidable qui s'est occupé de ses enfants, de ses femmes... qui était très attentionné.
Présent, attentionné.
Très présent. très présent, même s'il n'habitait pas avec nous, qu'il était souvent absent, mais on le voyait pendant les vacances. Et il était très présent grâce au téléphone, entre autres. Mais c'était un père, c'était un conteur, c'était un père qui avait plein d'humour, qui aimait beaucoup rire, qui était délicieux, non, délicieux. On a eu beaucoup de chance d'avoir un père comme ça, comme lui.
Il ne nous a pas donné envie, Colombe, de monter sur les planches ?
Moi, ce n'était pas mon truc du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis montée une fois, ça m'a rasée, pour vous dire que j'en avais marre. Ça, c'était le jeudi après-midi. C'était maman qui m'avait mis en scène. Je devais débuter et lire les titres des Fables de La Fontaine, qui passaient en deuxième partie sur...
C'était juste les titres, comme ça ?
Oui, juste les titres. C'était pas compliqué.
C'est pas non plus
compliqué.
Hyper excitant, oui. Mais enfin, c'est pas très
motivant
non plus.
J'avais même pas eu le droit à un costume.
Oui, c'était des débuts difficiles, alors.
Ah, non, jamais.
Vous auriez dû essayer, parce que je suis pas sûr que l'expérience ait été très, très...
Non, mais j'ai jamais été bonne sur scène, moi. C'est pas mon truc. Non.
Et votre père aurait pu être comédien ?
Je crois qu'il aurait bien aimé, hein. Je vois Beugnot.
Bernard Beugnot, il en a parlé.
Je crois qu'il aurait bien aimé. Plusieurs acteurs. Bon. Je crois qu'il l'était parce que tous les, comme il lisait ses pièces. D'abord, il lisait sa pièce à toute la comédie, et ensuite il intervenait dans les mises en scène. Et les témoignages qu'on a des acteurs disent tous qu'il lisait admirablement et qu'il jouait d'abord sa pièce. Enfin, il servait de modèle aux acteurs qu'elle incarnait ses personnages. Et pour reprendre votre double question, moi j'ai l'impression qu'il était très heureux d'écrire. Il y a un bonheur de l'écriture qui se manifeste dans les manuscrits. Et je ne crois pas qu'il était angoissé. Je dirais, c'est par là qu'à mon avis, il est encore moraliste, il était lucide. C'était quelqu'un d'extrêmement lucide sur l'humanité, sur les rapports humains, mais pas au point de s'en déprimer, j'ai l'impression, parce qu'il avait à la fois, je crois, les consolations familiales, ce que vous avez dit, ça ressort quand même quand on lit certaines choses d'Anouilh, et le bonheur d'écrire du théâtre.
Et de le mettre en scène. Et de
mettre en scène. Il adorait la mise en
Alors,
scène.
Si ça marchait, tant mieux. Mais je crois que si ça ne marchait pas, mais il avait quand même pris son pied les 3 mois ou les 2 mois que prenait la mise en scène, que prenait le travail avec Pietri, avec Malclès, avec les acteurs. Et que bon, bah, si des gens étaient... si ça ne leur plaisait pas et s'ils ne venaient pas, tant pis. Lui, c'était quand même amusé.
Il était décorateur. Il dessinait très bien. Papa peignait, d'ailleurs. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas. Mais il faisait des dessins, des perspectives. Ah non, il était très bon en dessin.
Il y en a, la première page des manuscrits, en général, sont des dessins. Croquis de scène et croquis de personnages.
Finalement, c'était l'homme de théâtre absolument complet.
Oui.
De l'écriture à la mise en scène, au dessin.
À la traduction. Comme
la
ça.
Traduction.
Quand il a traduit des pièces de Shakespeare, ce n'est pas forcément les traductions les plus fidèles. C'est-à-dire qu'il peut manquer un adverbe de Shakespeare qui ne sera pas traduit en français sous la plume d'Anouilh. Mais c'est les traductions à la lecture. On sent que ça peut passer la rampe, alors que les traductions de François-Victor Hugo ou celles de la Pléiade actuelle, ce n'est pas ça.
Je crois qu'il y a une formule dans une lettre justement à Pierre Gaxot où il dit « Oh, le texte, c'est le plus facile ». Alors, enfin, ce n'est pas le texte qui est difficile, c'est après que commence vraiment le théâtre.
En tout cas, c'est magnifique que Jean Anouilh ait découvert sa vocation très jeune, finalement, avec cette... comment est-ce que vous appeliez ça tout à l'heure
Ocap.
Cette... Oui, c'est ça.
La publicité pour Ocap
Non, après. La petite pièce.
Mulus,
voilà. Mulus. Merci à tous d'avoir participé à ce temps de parole et de réflexion autour de la forte personnalité et des écrits de Jean Anouilh. Merci à tous. Thank you.